Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Sciacca l'ingresso in area ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. On termine notre bilan de la saison 2021-2022 aujourd'hui avec, on vous avait prévenu, un épisode un peu fourre-tout, un peu pêle-mêle. Et je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini pour en parler. Salut Guillaume.
Bonjour tout le monde, bonjour mon cher Yoann Crochet, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va, on digère tranquillement la fin de la saison italienne. Petite pause footballistique en attendant le retour, mine de rien, qui va arriver très vite. Puis on le sait, en Italie, Guillaume, le mercato nous occupe pas mal l'été.
Les premières pages déjà des journaux, et puis tu disais que ça va revenir vite, c'est vrai, parce que ça va reprendre au fameux week-end de Ferragosto, donc du 15 août. Pour une raison simple, mon très cher Johan, c'est parce que comme l'Italie ne va pas au Mondial, et il faut le rappeler malheureusement, comme il y aura une grosse pause de novembre à décembre auquel nous ne sommes pas conviés, et du coup la Ligue de Serie A a décidé d'anticiper la reprise du championnat du coup, voilà, qui commencera le 15 août pour avoir le maximum de journées d'ici à cette pause mondiale auquel l'Italie n'est pas conviée.
Exactement. On verra d'ailleurs si l'Italie, on sait que c'était une hypothèse de travail, si l'Italie participe ou organise un tournoi. On avait parlé des États-Unis, des Émirats Arabes Unis.
Ouais. On verra. Sans les tuyaux, mais c'est vrai que ça a pris un peu du pont dans l'aile. Je ne sais pas si ça va se faire, mais il y a un moment, oui, les journaux en parlaient. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, c'est un peu plus calme. Et tu sais, quand avant ce drame de la Macédoine, l'Italie avait prévu ce fameux match contre l'Argentine. On l'a vu à Wembley, voilà. Et finalement, il y a eu quelques regrets quand même en se disant en fait, ce match ne servira pas à grand chose. Ou alors, oui, pour un trophée, certes. Donc en Italie, maintenant, on a le temps de programmer hein, jusqu'à l'Euro dans 2 ans. Et le Mondial, Johan, si on y va en 2026, ce serait bien quand même.
Maintenant, il n'y a plus rien de sûr, hein, Guillaume.
Non! Non, mais bon, ce serait quand même bien parce qu'on vieillit. Et puis pour le boulot aussi, c'est quand même cool de faire des mondiaux pour la nationale. Et donc, on va croiser les doigts. Et puis, en attendant, débriefons cette fin de saison de Serie A.
Alors Guillaume, après notre épisode d'une quarantaine de minutes sur chacun des 6 premiers du classement, on va s'intéresser aujourd'hui aux petites équipes, aux plus petites équipes, classées entre la 7e et la 20e place. Précisons d'entrée qu'on n'est pas certain d'évoquer le cas de toutes les équipes, mais on va commencer dès à présent, évidemment, avec la Fiorentina qui termine 7e. Et mon cher Guillaume, quel changement par rapport aux deux précédentes saisons où c'était vraiment une Fiorentina qui était alors à la fois décevante sur le plan des résultats, mais également très décevante sur le plan du jeu.
Oui, et il faut rappeler aussi qu'au tout début de saison, c'était Gattuso qui devait être l'entraîneur de la Viola pour diverses raisons, dont l'agent Jorge Mendes ne s'était pas fait. Du coup, Italiano a débargué. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire sur la Viola, c'est que c'est l'équipe déjà qui a gagné le plus de points par rapport à la saison dernière. Et c'est vrai que ça a été une surprise dans le sens où, au vu de la qualité de l'effectif et le peu qu'on avait eu cette dernière saison, la revoir à ce niveau-là, et surtout, Johan, j'ai envie de te dire, le niveau de jeu qu'on a pu voir aussi, parce qu'il y a beaucoup de changements, le fait qu'Italiano arrive comme ça cet été, un peu à la surprise générale, après des longues négociations avec Spezia, on ne savait pas aussi ce que valait Italiano dans une équipe, on va dire. Alors, pas une grande équipe, on va dire, quand même, qui joue le haut tableau. Et c'est vrai que la mayonnaise a prise assez rapidement. Il y a eu un recrutement assez intéressant qui a été fait. Et c'est vrai que le mélange de toutes ces nouveautés et le retour quand même d'une base stable et d'une équipe, on va dire, cohérente, a fait que la Fiorentina, quand même, a retrouvé l'Europe. Et c'est quand même très bien pour le championnat italien parce que la Fiorentina reste quand même un club historique de notre championnat.
Évidemment, et puis le travail d'Italiano, comme tu l'as dit, il est vraiment à souligner. On se souvient de son Spezia qui jouait vraiment bien au foot et qui avait obtenu un maintien finalement assez confortable avec du jeu, avec des joueurs qui avaient beaucoup progressé. Et là, honnêtement, ce qu'on a vu à la Fiorentina, alors on sait Italiano, c'est un jeu un petit peu plus espagnol, entre guillemets, c'est-à-dire un grand contrôle du terrain avec beaucoup de possession, des redoublements de passes, des joueurs qui décroche pour venir contre le ballon et d'autres qui se projettent pour prendre l'espace créé par ces décrochages. Et effectivement, on a vu comme à Spezia des joueurs qui avaient progressé. Je pense à un joueur comme Dusan Vlahovic qui s'est révélé être particulièrement létal et même très utile dans le jeu de la Viola. Bon, après, il est parti au mois de janvier et ça c'est. Ça restera vraiment je le disais dans un épisode précédent, ça restera vraiment pour moi un ici. Et si Vlahovic était resté, je pense sincèrement que la Fiorentina était en capacité d'aller chercher la 4e place.
Ah ouais, tu penses qu'ils auraient pu aller en Ligue des Champions?
Ouais, je pense sincèrement, ils étaient sur une dynamique qui était assez folle avec un. Parce qu'on l'a vu, en fait, même avec l'absence de Vlahovic, la Fiorentina continue à bien jouer au foot. Mais en fait, avec des gros problèmes de finition et Cabral et Piontek n'ont pas du tout, alors j'allais dire, répondu aux attentes. En tout cas, ils n'étaient pas du tout sur les mêmes statistiques que Vlahovic. Je pense aussi à des joueurs qui ont renforcé cette équipe, Nico Gonzalez, qui est un joueur très intéressant, qui peut être parfois très agaçant aussi, mon cher Guillaume, parce qu'il est tout le temps par
Oui.
terre. Ça, c'est un vrai défaut. Il faudra qu'il fasse attention à ce que ça ne devienne pas pour lui vraiment.
Il a un caractère assez trempé en plus, hein. Il
Ouais,
a un
c'est ça. Et
caractère
puis,
très.
tu sais, c'est vite fait, hein. Les arbitres se passent le mot. Il y en a un qui se fait avoir. Et puis après, celui d'après, bah, même s'il y a un petit contact, il siffle plus, etc. Donc il faut qu'il fasse attention à ça. Torreira qui a été énorme. Odriozola qui a été énorme. Même regarde, Biraghi. Quand tu vois les saisons précédentes de Biraghi et que tu vois celle-là.
Notamment à l'Inter.
Ouais, exactement.
Et il est revenu en sélection d'ailleurs.
Ouais,
Ce qui récompense sa belle saison, hein,
Donc en
avec
fait, on a
Altafio.
vraiment la combinaison jeu, progression des joueurs, spectacle, les résultats aussi, et en plus, tu retrouves l'Europe.
Et surtout, voilà, il y a eu des belles victoires. On rappelle cette victoire à Naples,
Ouais.
notamment. Mais tu vois, moi j'en avais parlé avec Jonathan Ikoné, qui lui est arrivé en janvier. Et lui me disait qu'il avait trouvé un groupe déjà qui était sain. et tu le sais comment, Johan, ces dernières saisons, la Fiorentina avait eu quand même quelques problèmes, même au niveau, on va dire, de l'environnement et même avec les supporters. Et surtout, il m'a dit que Italiano était vraiment un entraîneur exceptionnel, hein, qu'il ira très loin et que c'est vraiment quelqu'un qui connaît parfaitement le football, chaque détail, quelqu'un de très minutieux et qui vraiment voilà, bosse sur chaque petite chose pour que le dimanche, voilà, tu arrives avec des devoirs, avec ce que tu dois faire, ce qu'il attend de toi. Mais c'est aussi quelqu'un qui te laisse beaucoup de liberté. Et c'est vrai que, toi, tu parlais de Cabral, Piontek, on verra parce qu'il était en prêt. Mais moi, je pense voilà, un joueur notamment comme Ikoné, avec une demi-saison de plus, tu sais, peut-être aussi que la Fiorentina l'année prochaine pourra vraiment jouer le top 4 parce que Cabral, on l'a vu quand il était à Bâle, que c'est un très bon attaquant. Mais c'est vrai que le temps que tu arrives, que tu t'adaptes aussi à une nouvelle équipe, à un nouveau championnat, Piontek, lui, on a un peu l'habitude de voir ça qui commence toujours très fort. On rappelle cette victoire à Naples en Coupe d'Italie. Mais voilà, avec des joueurs, avec quelques mois en plus et une demi-saison, on va dire, dans les jambes, c'est vrai que la Fiorentina, en plus avec Italiano qui aura du coup voilà, un passé plus récent avec la Viola, ça peut vraiment faire quelque chose de plus rodé et de plus concret pour la saison prochaine. Et ça pourrait être vraiment une surprise, j'ai envie de te dire, encore plus haut pour le classement de la Viola.
C'est clairement l'une des équipes les plus hypantes de cette saison, je trouve, en termes de jeu. Moi, j'ai dû rater un ou deux matchs seulement de la Fiorentina cette saison, tellement ça m'a plu, en fait. Tellement les joueurs ont progressé aussi. Donc, c'est vraiment à voir maintenant quelle est la marge de cette équipe. Tu disais, pouvoir jouer la quatrième place. On verra. C'est vrai qu'il va y avoir du monde aussi sur la ligne de départ la saison prochaine. Mais effectivement, tu te dis que... avec un Vlahovic, je pouvais faire top 4, top 5. Donc maintenant, il n'y a plus Vlahovic. Est-ce que Torreira va rester? C'est un peu délicat. Odriozola retourne au Real. Donc là aussi, en termes de construction d'effectifs, il va y avoir des choses à faire pour essayer d'affirmer un petit peu ces ambitions-là, ces nouvelles ambitions-là. Et puis attention, hein, il y a quelque chose que la Fiorentina n'a plus l'habitude de faire, c'est jouer deux matchs par semaine. Donc là, ça va être aussi un petit peu...
Mais tu vois, la Conference League, ça peut être clairement... une belle opportunité pour cette équipe. Quand on voit le parcours de la Roma et l'euphorie que ça a provoqué à Rome, moi, la Fiorentina, tu vois, j'aimerais bien la voir aller au bout. Alors, voilà, pour l'instant, c'est très utopique, mais quand on voit ce que ça peut générer, ce que ça peut provoquer, et surtout que la Fiorentina, ça fait quelques années quand même qu'elle n'allait pas en Europe, quand on voit l'euphorie aussi que ça a provoqué, le fait de se qualifier pour cette C4, bah, moi, je m'attends quand même à quelque chose, on va dire une aventure, alors peut-être pas aller au bout, tu vois, mais un truc assez sympa, qui viendrait un peu concrétiser tout le bien qu'on a vu. Et c'est vrai que c'est vraiment une équipe une des plus plaisantes cette saison. Et voilà, moi, j'aimerais bien vraiment qu'elle fasse une belle aventure l'année prochaine en Conference League.
On passe au 8e de Serie A, mon cher Guillaume, l'Atalanta.
Surprise, mais dans le mauvais sens.
Ouais, exactement. Alors, c'est une moins bonne saison en termes de classement. C'est la moins bonne de l'ère Gasperini, qui a commencé en 2016. En fait, l'Atalanta... C'est en fait, il faut réfléchir à ton point de vue de départ. Est-ce que ton point de vue de départ, Guillaume, c'est elle reste sur des places dans le top 4, même des podiums, et donc maintenant on s'attend à ça? Ou est-ce que le point de vue, c'est pendant 3 ans, on a vécu quelque chose d'extraordinaire au sens littéral, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire, et aujourd'hui c'est peut-être simplement... Alors, à la fois une fin de cycle avec quelques joueurs, à la fois... En fait, c'est une combinaison de fin de cycle, une combinaison de joueurs qui ne sont plus à 120%, mais peut-être simplement à 100%, à leur niveau réel, et un niveau qui était extraordinaire avant. Et puis aussi, il y aura un facteur dont on doit parler, c'est le facteur blessure, parce qu'ils n'ont vraiment pas été épargnés cette saison.
Écoute, pour répondre à ta question, disons que dans la pensée collective, moi, j'ai envie de te dire que je m'attendais quand même à ce qu'elle joue toujours, on va dire, le top 4, parce que c'est vrai qu'on s'est pris au jeu et on a pris l'habitude que l'ADA était quand même toujours dans les 4 premiers et qu'elle gênait toujours les gros. Et que tu te souviens, il y a un moment quand même, on parlait même de titres. On se demandait, mais comment l'Atalanta peut passer ce step supplémentaire pour passer de la Ligue des Champions, où elle a fait des parcours incroyables. Et c'est vrai que ce match face au PSG sera quand même un grand regret. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'au début, pour tout le monde, ça restait quand même le top 4. Mais c'est certain que d'un côté, on peut dire que la Talenta, on va dire, est rentrée un peu dans son rang parce que, comme tu l'as dit justement, c'est vrai qu'elle a peut-être surperformé ces dernières années. Elle a vraiment vécu quelque chose de dingue et surtout, Johan, avec le contexte que Bergame a connu, ce qui n'a pas non plus été évident. Mais voilà, je pense que c'est un peu un combo des deux qui fait que cette saison, voilà, il y a forcément beaucoup de déceptions parce que, ben voilà, on a cette habitude-là, mais c'est certain qu'on ne peut pas non plus tout jeter en l'air et tout jeter à la poubelle en disant, bah, Gasperini, c'est fini, il y a tout à changer. C'est sûr qu'il y a des retouches à faire. En tout cas, voilà, je pense, pour prendre la question, que c'est un combo des deux. Mais aujourd'hui, voilà, c'est sûr que voir l'Atalanta 8e, paradoxalement, Johan, ça fait un effet un peu, on va dire, bizarre, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude de l'avoir dans le top 4. Alors que si tu regardes le top 4 aujourd'hui, c'est Milan, Inter, Naples, Juve. Donc pour ça, il n'y a aucun scandale, aucune surprise. On va dire que ça rentre un peu dans le rang. Mais voir l'Atalanta aussi bas et même pas qualifié en Europe, c'est sûr que c'est particulier. On peut aussi préciser que les tifosi n'ont pas contesté, n'ont pas non plus sifflé. Voilà, il y a eu quelques périodes plus compliquées, mais il y a eu, voilà, il y a eu quand même une reconnaissance des dernières années sans pour autant tomber dans l'excès de cette mauvaise saison, entre guillemets, avec ce parcours, Johan, en Europa League, qu'elle, voilà, moi, j'aurais aimé peut-être voir un peu plus loin, même si, voilà, le plafond de verre, pardon, a peut-être été atteint face à l'Atlético.
Et puis, on parlait de top 4. Il faut savoir que jusqu'à la 23e journée, l'Atalanta était quatrième, et que jusqu'à la 30e journée, l'Atalanta était encore cinquième. Donc c'est vraiment la fin de saison où ils sont écroulés, où ils ont fait 5 défaites en 8 journées. Sur les 8 dernières journées, il y a quand même 5 défaites, 1 nul et 2 victoires. C'est là où ils se sont vraiment écroulés. Mais jusqu'à la 30e journée, t'es quasiment dans les clous. Donc effectivement, que tout n'est, c'est évident que tout n'est pas à jeter et que parmi les 1000 difficultés dont on va parler, bah, mine de rien, à 8 journées de la fin, t'étais encore dans les clous. Et c'est pas rien, c'est pour ça que le jugement doit être juste et réaliste en fait. C'est-à-dire, ils ont raté leur sprint final avec le sentiment parfois que l'Europa League était plus importante que le sprint final. Ce qui peut s'entendre, hein, tout à fait, moi j'ai aucun problème là-dessus. Il y a quand même une constante, c'est pas trop dans le jeu qu'il y a eu des difficultés, même si tu peux dire que l'équipe a été moins brillante, etc. Mais c'est surtout dans les deux surfaces où ils ont été moins efficaces. Je regardais un petit peu les chiffres. 65 buts cette saison en Serie A. Les trois saisons d'avant, c'était 90, 98 et 77. Donc ils sont vraiment en sous-performance. Et c'est lié, alors là on est obligé de parler un petit peu de blessure, mais Zapata, il rate, pas, ouais, il rate 4 bons mois de compétition. Et quand il revient en avril, il est totalement hors de forme et ça se voit en fait. Il explose sur des duels physiques, il est plus capable d'aller à la course et à l'épaule.
Bah, c'est surtout un joueur qui mise beaucoup sur son physique. Donc le temps qu'il se remette en jambe, on va dire, c'est sûr que ça a pris du temps.
Et puis Muriel aussi, Luis Muriel, voilà, il a raté plusieurs semaines de compétition. On sait que lui, ça fait aussi partie de ces joueurs qui, dès qu'ils ont un petit pépin physique qui dure une semaine, deux semaines, après il leur faut quasiment trois semaines pour retrouver la forme physique. Et ça, vraiment, avec Muriel, je pense que c'est une énorme limite pour lui. Même, tu vois, quand on parle de niveau de carrière, jusqu'où il peut aller, etc., moi je vois que, enfin, je considère que c'est vraiment une limite. Et puis même si on reste sur le plan offensif, bah, le recrutement, il n'est pas réussi. Mihaila de Parme, pour moi c'est un ovni. Il ne s'est pas imposé à Parme en Serie A, il ne s'est pas imposé à Parme en Serie B. Je ne vois pas comment il pouvait s'imposer à Bergame. Et puis il y a le cas Boga, je ne sais pas ce que tu as pensé de sa demi-saison à l'Atalanta. Moi, je trouve qu'il est... Ouais. Et comme disait De Zerbi, c'est quelque chose que lui reprochait De Zerbi. Il disait qu'il était souvent trop effacé, trop timide. Par rapport à ses qualités, De Zerbi disait qu'il doit demander plus souvent la balle, il ne doit pas s'effacer, il doit être beaucoup plus présent dans le jeu, il doit aller provoquer sans arrêt en 1 contre 1. Et en fait, on a vu, alors dans une équipe qui tournait un petit peu moins bien aussi, bah, on a eu le même constat que faisait déjà De Zerbi à Sassuolo en fait.
Écoute, c'est un peu frustrant, j'ai envie de te dire, pour Boga, parce que on connaît toutes les qualités du joueur et on sait que dans le 1 contre 1, honnêtement, en Serie A, c'est l'un des meilleurs. Mais c'est vrai que même parfois, tu vois, dans la finition, au moment de concrétiser, on en avait souvent parlé dans les podcasts, je me souviens l'année dernière, il y avait même 2 ans, Deserbi le disait aussi, c'est vrai que dans le dernier geste, parfois il manquait de lucidité ou il manquait de discernement, et on l'a encore vu cette saison avec la Talenta. En tout cas, quand il arrive en janvier, on s'attendait forcément à autre chose, et je pense honnêtement que la Talenta s'y attendait, mais c'est certain que si tu regardes sa deuxième partie de saison avec la DA, enfin, au niveau des stats, c'est quand même très compliqué parce qu'il n'a pas marqué, il n'a pas délivré une passe D. Donc en fait, ça reste, tout le monde en Serie A, donc ça reste vraiment une énigme parce que Johan, si je ne m'abuse, le prix quand même c'est quasiment 25 millions d'euros par là.
C'est ça.
Donc forcément, je pense que l'Atalanta s'attendait à avoir, on va dire, une impulsion en recrutant Boga parce qu'on connaissait toutes ses qualités, mais c'est certain que c'est un joueur qui doit encore progresser sur beaucoup de points. Moi, je pense qu'il peut le faire avec l'Atalanta, mais j'ai l'impression qu'en arrivant à Bergame, il est rentré un peu dans le mood qu'il y avait à cette époque, et il n'a pas réussi vraiment à tirer l'équipe vers le haut, au moment où il le fallait, et c'est vrai que c'est ce qui a pêché au niveau de tout ce qui était décisif, et Boga n'a pas été du tout en deuxième partie de saison, et c'est ce qui a manqué aussi à la Talenta pour au moins décrocher une qualification en Conference League.
À sa décharge, il y a aussi une adaptation à un nouveau système tactique et à une nouvelle position. Autant il était sur le côté gauche à Sassuolo, là où les 1 contre 1 sont un peu plus faciles puisque tu as plus d'espace. Autant là, tu es un peu plus au cœur du jeu en soutien de l'attaquant. Alors même s'il est quand même de manière régulière je vais utiliser un mot en italien en le francisant alors que c'est pas bon, alors qu'il est il se déporte sur le côté gauche clairement de manière presque naturelle, mais c'est plus tout à fait quand même les mêmes zones d'influence. Malgré tout, le constat est qu'il doit faire beaucoup mieux dès la saison prochaine, et si l'Atalanta réussit à avoir un Boga plus décisif la saison prochaine, avec un Zapata moins blessé aussi, bon, on devrait retrouver une équipe dans ses standards offensifs habituels. Je parlais des blessures tout à l'heure à l'Atalanta. Il y a quand même eu une période dans la saison où ils ont joué avec un seul défenseur central valide, alors qu'ils en ont quand même 6. C'est quand même assez dingue. Il y a eu les blessures, on l'a dit, de Zapata, de Muriel, etc. Les blessures des Pistons aussi. Un coup c'était Atebourg, un coup c'était Melleux, un coup c'était Gossens, parce qu'on a oublié Gossens.
Bien sûr.
Mais il joue que 6 matchs en 6 mois, les 6 premiers mois, avant d'être transféré à l'Inter. Et tu sais, je regardais un peu le nombre de matchs. Alors, je parle même pas de titularisation, je parle de matchs au complet. Hein. Enfin, de matchs tout court, ça peut être aussi les entrées en jeu, etc. Cette saison, Freuler, il a 29 matchs sur 38, Demiral 28, Muriel 27, Pessina 27, Melleux 26, Zapata 24, Atebourg 21, Toloi 20. Voilà, t'as quand même des joueurs qui ont raté beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs cette saison. Donc, à voir ce qui va se passer cet été. Je pense qu'il y a certains joueurs où ça commence peut-être à être un peu limite. En fait, tout dépendra de tes ambitions. Si tes ambitions, c'est de réussir à faire top 7, tu peux continuer avec une grande partie de ce groupe. Si ton ambition, c'est de faire top 4, je pense qu'il y a vraiment des...
Oui, puis on peut rappeler aussi que l'Atalanta a été rachetée.
Bien sûr.
En partie, qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, on va dire, dans l'organigramme.
Le départ de Sartori ne sera pas simple à combler.
Exactement, qui était un des grands artificiers de l'Atalanta des dernières années. Et surtout, voilà, il y a eu cette question autour de l'avenir de Gasperini, qui visiblement est résolu et il devrait rester, sauf cataclysme ou sauf... dans la presse bergamasque, en tout cas, on lit que Gasperini attend beaucoup de choses du mercato et qu'en cas de déception ou autre, voilà, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Moi, je pense qu'il va rester, qu'il va repartir de l'avant avec l'Atalanta. Mais en tout cas, c'est quand même un été, on va dire, décisif sous plein de vues, que ce soit au niveau de la direction, au niveau de l'effectif, au niveau du staff technique. Tu parlais des blessures. Quand il y en a autant, je pense que c'est pas anodin aussi. Voilà, après, l'Atalanta, Johan, l'avantage, c'est que l'année prochaine, mine de rien, elle ne jouera qu'une compétition. Ouais. Alors, la Serie A, mais la Coupe d'Italie à côté. Donc, ça pourrait aussi lui permettre de repartir de l'avant et de se focaliser sur la Serie A et pourquoi pas la Coupe d'Italie où vraiment elle est passée tout près ces dernières années où elle a malheureusement perdu souvent en finale face à la Lazio notamment. Mais en tout cas, voilà, ce sera important d'avoir un été solide pour l'Atalanta pour bien repartir la saison prochaine et voilà, recommencer avec l'objectif, je présume, du top 4 parce que, tu sais, Johan, quand tu goûtes avec des champions, c'est toujours compliqué après de redescendre, on va dire, en gamme. Donc, je présume que l'année prochaine, l'Atalanta aura quand même l'objectif de viser le top 4. Mais il y a quand même voilà, beaucoup de retouches à faire pour l'atteindre parce que la Roma et Mourinho, la Lazio de Sarri, le Naples de Spalletti, Milan, Inter et j'en passe, ça va jouer aussi le haut du classement. Donc pour se frayer une place, il va falloir faire une saison plus que sérieuse.
On va passer à un coup de cœur maintenant, mon cher Guillaume.
Ah oui.
L'Empoli d'Aurelio Andreazzoli, dont on va parler au passé, puisque malheureusement ou heureusement, je sais pas, moi je trouve ça un petit peu dommage que
c'est tout frais.
Ouais, que l'histoire se termine comme ça. Andreazzoli, on le sait, le choix du club, des dirigeants, ça a été d'arrêter l'aventure avec lui et de nommer Zanetti comme remplaçant. Zanetti qui était à Venise cette année jusqu'à 4 journées de la fin, je crois, quelque chose comme ça.
Oui, un changement qui a servi à rien du tout.
Oui, comme c'était prévisible hein, d'ailleurs.
Voilà, ouais. On est défendu l'Italie quand même.
Mais c'est vrai que c'est difficile de passer à côté de la saison d'Empoli quand t'aimes le football et une certaine manière de jouer, de penser le football, d'amener tes joueurs à performer. Il y a une qualité de jeu qui a été quand même assez dingue. Alors évidemment, il faudra faire la distinction entre première partie de saison, deuxième partie de saison. Encore que deuxième partie de saison, il y a des matchs où ils ont été vraiment mal payés, où il y avait des bonnes prestations, mais tu avais clairement un groupe sans star. Et l'objectif maintien a été obtenu à travers le jeu, à travers le courage, à travers la prise de risque. Et ça, sincèrement... Quand tu vois que cette équipe était quasiment sauvée à la fin de la phase aller, c'est dire la performance quand même d'Andreazzoli et de ses hommes.
Et surtout, Andreazzoli, c'est un entraîneur qui a toujours été cohérent avec ses idées, qui est droit dans ses bottes. En plus d'être quelqu'un de profondément bien sur le plan humain, et ça, tout le monde le reconnaît. Alors là, il faut avouer qu'il est très avare, hein. Très amer, Johan, de son départ. Il a eu beaucoup de déclarations depuis où on a bien compris que c'était un choix du club. Mais c'est sûr que c'est une équipe qui a toujours joué son jeu, voilà, qui a été mal payée, comme tu l'as dit. Mais au niveau des idées et du plaisir de voir cette équipe jouer au football, tu savais très bien qu'en te mettant sur ton canapé, en regardant Empoli, même en deuxième partie de saison, où vraiment ils ont été... Voilà, c'était plus compliqué au niveau des résultats. Il a fallu attendre de Naples à Naples hein, pour retrouver une victoire. Mais c'est sûr qu'on a vu aussi des belles surprises, comme Pinamonti, hein, qui a confirmé quand même tout le bien qu'on pensait de lui. Il y a Asliani, évidemment, qui aujourd'hui intéresse beaucoup l'Inter. Vicario, Johan,
ouais.
Qui a fait une très, très grosse saison. Tu te souviens, ce match face à Salerne à toute fin de saison, à la dernière journée, ce qui avait été, à l'avant-dernière, pardon. Où ça avait été assez incroyable. Mais voilà, c'était vraiment une équipe qui était agréable à regarder. Et c'est sûr que cette fin, on va dire, c'est dommage qu'Andreazzoli paye sa deuxième partie de saison parce que l'objectif, initialement, c'était le maintien. Il l'obtient. Et pour une deuxième partie de saison, on va dire, ratée, parfois par malchance et parfois pour quelques erreurs. Moi, je trouve ça assez dommage. Et, je ne suis pas certain que la saison prochaine, ça se passera aussi bien. Et c'est vrai que. Au niveau du jeu, en tout cas, voilà, c'est un coup de cœur, mais tu sais, l'Empoli d'Andreazzoli, c'était le même qui était descendu contre l'Inter il y a quelques années, à la dernière journée, qui avait fait un gros match à San Siro et qui avait fait une saison, au point de vue du jeu, qui est exactement pareil que celle de cette saison, avec des joueurs peut-être probablement plus forts. En tout cas, voilà, quand Andreazzoli entraîne Empoli, c'est toujours un plaisir à voir. Voilà, malheureusement, c'était pour cette saison, ce ne sera pas pour la prochaine.
Exactement. Dans les jeunes qui ont émergé, tu as cité Aslani et c'est vraiment un gros coup de cœur. Moi, je l'avais vu jouer en Primavera et avec Baldanzi aussi qui était très très fort. D'ailleurs, ce qui est assez fou, c'est que dans les jeunes, il y avait Ricci aussi qui est parti au Torino en janvier pour faire.
C'est le nom que j'allais te faire.
Voilà, c'est ça, pour faire de la place à Aslani. Et derrière, moi, qui ai vu encore des matchs de la Primavera d'Empoli cette saison, il y a Deli Innocenti. Qui est un milieu capable de jouer devant la défense aussi, qui me semble assez prometteur. Donc, ils ont déjà la relève du mec qui est arrivé il y a 6 mois en équipe première, donc c'est quand même assez dingue. Il y a Parisi aussi, en latéral gauche, qui sont allés chercher, je crois que c'était à Avellino, de mémoire, qui a vraiment fait une première grosse saison. Viti en défense, Bayrami, qui n'a pas été aussi consistant sur toute la saison, mais qui a laissé entrevoir quand même pas mal de bonnes choses. Et puis quand un club forme bien et qu'il recrute bien, Guillaume, il met à disposition de son entraîneur quand même pas mal de bons joueurs. Les Zurkowski qui vient de la Fiorentina, je crois, qui était prêté. Pinamonti, Stojanovic, moi que j'ai adoré. Enfin, adoré, non, c'est exagéré, mais que j'ai vraiment aimé, le latéral droit, qui vient du Dynamo Zagreb. Bref, 14e, 11 points d'avance sur le premier relégable, Guillaume.
Mais tu sais, ouais.
Bon, c'est quand même difficile de passer à côté de cette
équipe-là. Mais il n'y a pas de sucre. Ouais. Quand tu vois les Benacer, les Kronis, qu'aujourd'hui, quand même, on a un rôle à jouer. Mais évidemment, dans le Scudetto du Milan, Di Lorenzo, tu l'as dit, à Naples, Traoré. Mais c'est certain que quand une équipe, même si elle joue la deuxième partie de tableau, prend du plaisir et voilà, on va parler après de Sassuolo, mais tu vois, quand une équipe prend du plaisir à jouer, qu'elle se fait plaisir et qu'elle forme des super joueurs, regarde par exemple Pinamonti, je ne suis pas certain qu'il aurait pris autant de plaisir à jouer cette saison qu'il l'a fait à Empoli qu'ailleurs. Mmh. Et c'est important aussi pour le développement des qualités d'un joueur, les qualités intrinsèques. Et c'est certain que voilà, c'était quand même l'une des équipes qui jouait le mieux au football cette saison en Serie A.
On va pas parler de Sassuolo tout de suite, on va redescendre un petit peu hein, d'un niveau, mon cher Guillaume. On va parler de deux déceptions. Je te propose de te laisser Cagliari et je m'occuperai du Genoa. Mais voilà, deux clubs relégués. Il y en a un qui tournait vraiment autour, c'est le Genoa. Cagliari, il y a eu des meilleures saisons, il y a eu des saisons compliquées aussi. Mais c'est vrai qu'on a deux clubs importants qui sont relégués cette saison en Serie B.
Bah, deux clubs historiques et c'est certain que pour les deux clubs, Johan, on pourrait parler quand même de succession de mauvais choix.
Oui.
Que ce soit au niveau du banc, parce que pour parler de Cagliari, alors certes, Mazzarri ne connaissait pas une saison, on va dire, flamboyante, mais dans le rush final… Moi, je suis persuadé qu'en vieux renard qu'il est, voilà, il aurait peut-être trouvé les solutions ou du moins apporté le calme nécessaire pour justement réussir ce rush final. Et il faut quand même, Johan, parler de sa dernière journée où Cagliari avait son destin entre les mains assez rapidement parce que Salerne prenait une claque face à Udinese. Ils ont quand même pris 4 buts. Et Cagliari a su très tôt, il jouait Venise, qui était déjà relégué en Serie B, et ne pas réussir à battre une équipe déjà reléguée, qui n'a plus rien à jouer, et alors que toi, tu joues vraiment ta survie. Voilà, c'est vraiment très compliqué à digérer pour tout le monde, mais voilà, quand tu vois un peu l'ambiance générale qu'il y a à Cagliari, où le président Giulini est très critiqué, où il y a beaucoup d'inscriptions sur les murs de la ville, depuis la descente et même avant, où voilà, j'en ai parlé, les choix du coach ont été compliqués. Mais quand tu vois l'effectif, que tu vois l'éclosion, par exemple, de Bellanova cette année, que tu as Pedro qui est toujours capitaine et qui a toujours marqué ses buts, Nandes, alors qui a connu, on va dire, une saison plus tourmentée, mais qui reste quand même un joueur important, les Lovato, les Keita Baldé, Cragno, qui est un des meilleurs gardiens de Serie A. On rappelle aussi qu'il y avait eu une espèce de purge, Johan, tu sais, avec les Strootman qui ne jouaient plus, les Caceres, les Godin, qui n'étaient plus dans le plan du club. Ben c'est vrai que cette saison, cette espèce d'engrenage a fait qu'à la fin, tu payes tous ces pots cassés en quasiment une saison. Et j'ai envie de te dire même un match, parce que ce match vraiment face à Venise, quand tu vois le scénario, c'est totalement dingue. Et ça pendait plus au nez du Genoa, je suis d'accord. Mais c'est vrai que Cagliari, à part la première partie de saison avec Maran, où vraiment il jouait quasiment le top 4, c'est vrai que depuis une année ou deux, tu sentais que ça dégradait doucement vers le bas. Et malheureusement, les choix ont fait qu'aujourd'hui, tu as un club historique qui malheureusement est redescendu en Serie B et qui va perdre aussi beaucoup de joueurs parce qu'on sait que Bellanova était racheté de Bordeaux, mais qui va partir. Pedro, on verra bien ce qui se passe, mais c'est un joueur évidemment qui a beaucoup de clubs sur le mercato. Les Lovato, évidemment, intéressent beaucoup. Donc voilà, c'est.
Sachant que Lovato, il était juste prêté, hein. Donc il va retourner à l'Atalanta.
Exactement.
Donc, mais t'as aussi Cragno, Vicario, ouais. qui va revenir de près, mais. Quand tu vois la saison qu'il fait en Serie A, je suis pas sûr qu'il a envie de.
Et surtout, Klein, tu pourras plus réclamer 30 millions d'euros comme tu l'as réclamé avant. Non. Alors que c'est un des meilleurs gardiens d'Italie. Donc,
non, mais en fait, Guillaume, c'est pas du tout un effectif pour descendre. On est en train de donner des noms. Tu rajoutes Nandez, tu rajoutes Rogue, tu rajoutes même Pavoletti. Je suis vraiment pas fan, mais malgré tout, ça reste un.
Et c'est un joueur, bah oui, qui marque ses 18
de Serie A, tu vois, et c'est assez incompréhensible, non, parce que tu l'as dit. Depuis la saison 2019-2020, il y a donc eu Rolando Maran, Walter Zenga, Eusebio Di Francesco, Leonardo Semplici, Walter Mazzarri et Alessandro Agostini. Donc 6 entraîneurs en 3 saisons, quand même pas mal. Tu parlais de la fameuse saison avec Maran. Le 1er février 2020, Cagliari était encore 6e de Serie A. Donc en l'espace d'un peu plus de 2 ans, ils sont passés de 6e de Serie A à relégués, sachant que il y avait déjà eu, il s'était quatrième à la 15e journée, cette saison 2019-2020. Et ensuite, il s'était totalement écroulé en deuxième partie de saison. Ils avaient fini quand même 14e, alors que tu avais été quatrième jusqu'à la 15e journée. Et derrière, la saison 2020-2021, elle n'est pas bonne. Et la saison 2021-2022, elle est encore moins bonne. Donc, certaines formes de logique, malgré tout. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a eu des investissements très lourds parce que les salaires des Strootman, même s'ils ne prenaient pas tout en charge.
Mais Godin.
Des Godin, Caceres, Nainggolan, l'arrivée de Rogue, le fait de garder Nandez.
Rappelle-toi Keita Baldé aussi qui arrive cet été dans l'euphorie à l'aéroport. C'est vraiment un manque de cohérence au niveau du projet, un manque de stabilité. Et toute cette incohérence fait qu'à la fin, tu le payes parce que tu ne peux pas avoir 6 entraîneurs en aussi peu de temps. Et que malheureusement, comme souvent en Italie avec certains clubs, tu payes, on va dire, la tendance du moment et ça manque vraiment de vision à long terme sur le projet.
Et précisons quand même que les entraîneurs successifs de Cagliari ont quand même préféré Pavoletti à Simeone. Et ça vaut sans doute une relégation. On va passer au Genoa, qui avait été racheté à l'automne par une société d'investissement américaine, 777 Partners, qui est arrivé en prenant malheureusement pour eux une mauvaise décision, le fait de nommer Shevchenko sur le banc, 9 matchs, 0 victoire, 3 points en 9 matchs et 3 buts marqués en 9 matchs. C'était le néant total dans le jeu. Je me souviens du match, moi un des matchs qui m'a le plus marqué dans la saison, mais même tout match confondu. C'est le Genoa Spezia. 1-0 pour Spezia, mais le Genoa, il n'y avait rien. C'est-à-dire que même rien, dire rien, c'est déjà beaucoup en fait.
Et tu sais, il y a une expression en Italie qu'on dit né carne né pêche. Ça veut dire ni viande ni poisson.
C'est ça.
Et c'était un peu ça, c'était quelque chose de très flou.
Ouais, mais là, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait pas de fromage, il n'y avait pas de dessert, il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait même pas l'assiette, il n'y avait même pas les couverts.
Là, mais c'est quelque chose de très fou, de très, très même bizarre, tu sais, à décrypter ou à analyser, parce qu'il n'y avait pas de concret, il n'y avait pas de. C'est très particulier. Ouais.
Et après, ils ont rectifié le tir en nommant Blessing, qui vraiment a fait du bien dans le jeu. Alors, ça ne s'est pas toujours traduit dans les résultats, parce qu'il y a eu assez peu de victoires finalement, mais. On a vu du jeu, du pressing, du courage, un jeu vers l'avant. On a vu beaucoup de bonnes choses. Mais c'était trop tard. T'as le sentiment que s'ils avaient nommé Blessin à la place de Shevchenko, ils auraient peut-être pu s'en sortir. Et encore, c'est pas totalement sûr non plus. Mais il y avait une dynamique quand même qui s'est créée. Des joueurs qui aimaient l'entraîneur, qui aimaient le style de jeu proposé par l'entraîneur, qui étaient moins bridés, moins peureux. Tout ça, ça a compté. Malheureusement, il partait de trop loin en fait.
Et... Il y a beaucoup de limites.
Il y a des limites dans l'effectif. Il y a eu des bonnes recrues. Ostigard, ça a été une bonne recrue. Amiri, sur la fin de saison, il a été important. Mais tu en as d'autres. Yeboa, Piccoli, Calafiori, FT. Ça n'a pas apporté non plus ce qu'on attendait. Et il le sentait bien, Blessin, parce que son système restait immuable. Mais il changeait régulièrement au milieu, devant, les combinaisons. Un coup c'était Yeboa, un coup c'était Kuban, un coup il mettait Destro, un coup il ne mettait pas. Enfin, tu vois, même au milieu de terrain, un coup c'était Amiri était là, un coup c'était Gudmundsson, un coup c'était. Bon, tu sentais qu'il essayait à peu près tout ce qu'il pouvait, mais c'était
On en avait parlé, toi et moi, il y a quelques podcasts. Même du lien, tu sais, qui avait été créé entre Blessin et la Piazza. C'est quelque chose Bah, de très important parce qu'on sait que voilà, le Genoa a connu des années compliquées. Malheureusement, voilà, ça se parachève par une descente en série B. Mais c'est vrai que Blessing, très rapidement, est parvenu à créer une espèce d'empathie avec les tifosi. Par exemple, il a ouvert les entraînements aux supporters. Et c'est vrai, il y a quelque chose qui s'est créé. À un moment, on a pensé que ça aurait pu suffire peut-être pour arracher un maintien, même à un ou deux points près. Voilà, après, les limites étaient trop grandes. Mais en tout cas, c'est certain qu'avec Blessing, depuis le début de la saison, moi, je suis certain, et même, tu sais, même avant l'été, qu'il ait une préparation, qu'il ait une équipe à lui, qu'il ait vraiment quelque chose, le temps de former vraiment ce qu'il voulait, parce qu'il avait vraiment une vision de jeu et un projet vraiment qui avait quelque chose de logique. Et surtout, les supporters, à la fin, on est vraiment été derrière le Genoa, même quand ils sont descendus, il n'y a pas eu de révolte, alors qu'il y a un ou deux ans, ça aurait été le cas. Donc, je ne sais pas si Blessing restera ou non, mais en tout cas, lui est parvenu vraiment à rapporter beaucoup de cohérence et rapporter de la sérénité à un environnement qui, malgré la descente, en avait besoin. Et j'ai l'impression que le Genoa, contrairement à Cagliari, Johan, s'il a sans recommencer demain en série B, bah partirait sur des meilleures bases, paradoxalement, que Cagliari, qui a peut-être un meilleur effectif. Parce que j'ai l'impression que le Genoa a posé des bases plus solides.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y aura aussi une continuité dans le jeu qui ne sera pas présente à Cagliari. On verra.
Parce qu'il y a des idées. Il y a des idées, tout simplement.
Ouais, exactement.
C'est important.
C'est pas mal. On va passer à Sassuolo, Guillaume, parce qu'il y avait une grande question cette saison quand même. C'est comment cette équipe, ce club, allait digérer le départ. Alors, en premier chef de Roberto De Zerbi comme entraîneur, et puis aussi. On a tendance à l'oublier aussi quand on évalue la saison de Sassuolo, mais il y a quand même Manuel Locatelli qui est parti. Il y a Marlon, qui était un pilier de l'équipe de Zerbi, qui est parti aussi au Shakhtar. On a aussi Caputo qui est parti, qui a quand même, pendant de longues saisons, enfilé les buts à Sassuolo. Jeremy Boga cet hiver. Juricic a été blessé quasiment toute la saison. Donc il faut prendre évidemment tout ça en compte.
Et surtout, l'inconnu de Dionysi aussi. Dionysi, c'est un entraîneur qu'on connaissait, mais qui n'avait jamais connu, on va dire, le très haut niveau avec la Serie A. Et quand Dionysi y arrive pour remplacer les Zerbi, on a aussi cet inconnu-là à rajouter à tout ce que tu viens d'énoncer.
Mais tu vois, bizarrement, enfin, ou pas bizarrement d'ailleurs, peut-être que c'est parce que, pour avoir suivi un peu le travail qu'il faisait à Empoli, et pour sa philosophie de jeu, la façon dont il voit le football et la façon avec laquelle il fait travailler ses joueurs et ce qu'il leur demande sur le terrain, j'étais pas très inquiet. Alors, pas très inquiet, c'est-à-dire, en gros, je me disais pas, comme certains commençaient à dire, attention, ça peut être la saison des gros dangers, etc. Moi, je pense que, d'une, déjà, l'effectif est de trop bonne qualité pour être vraiment danger, et deux, Dionysi est quand même un entraîneur que j'estime et...
Et pour toi, s'il y avait une suite logique quoi, dans les idées.
Il y avait une suite logique. Mais tu sais, il y avait une suite logique. Et paradoxalement, je pense, sans forcément connaître tous les détails de ça, parce que je n'ai pas pu échanger avec Dionysi là-dessus, mais il y avait une suite logique. Mais je trouve qu'il a peut-être au début un peu trop joué la carte suite logique, Dionysi. C'est-à-dire qu'il a voulu faire du De Zerbi.
Sans révolution,
sans même ajout de ses propres idées, parce que même s'il y avait une suite logique dans l'esprit, dans l'application sur le terrain, il y a quand même des vraies différences entre Dionysi et De Zerbi, mais en tout cas dans le principe, dans les principes généraux, il y a clairement une filiation entre les deux. Je trouve qu'à partir du moment où il y a eu un petit déclic en lui en se disant bon, on va peut-être arrêter de faire du De Zerbi et je vais amener petit à petit des choses, notamment une équipe plus verticale. Une équipe qui n'était pas dans le dogme de la possession, mais qui était capable de subir un peu plus, de défendre un peu plus bas et de piquer en transition. Parce que quand tu as des joueurs comme Raspadori, quand tu as des joueurs comme Berardi, quand tu as des joueurs qui se projettent comme Traoré, comme Fratesi, forcément, tu as des joueurs de qualité pour jouer aussi en transition. À partir de ce moment-là, je trouve que Sassuolo a vraiment tourné la page de Zerbi, entre guillemets, et tu as des joueurs qui se sont vraiment... senti à l'aise dans le système, alors qu'au début il y avait un peu la nostalgie de Zerbi. Une fois qu'ils ont digéré ça, je trouve que les Raspadori, je trouve que même un Maxime Lopez, par exemple,
bien sûr,
au fur et à mesure de sa saison,
les Flattesi aussi, ouais, qui aussi une révélation.
Mais tu, on peut tous les citer quasiment, hein, même Berardi, 15 passes, bien, 15 ouais, buts Berardi. Et 14 passes décisives. Bon.
Qui fait probablement sa meilleure, l'une de ses meilleures saisons, ou voir si c'est, voir la meilleure saison.
Et ça fait pas, quand même pas mal de bonnes saisons déjà. Donc si on dit qu'il fait sa meilleure là, c'est vraiment que.
Exact. Tu vois, moi j'ai regardé Dionisi, il était sur Sky Italie il y a quelques jours. Et c'est vrai que lui, tu vois, parler vraiment de Berardi comme son leader technique, même si évidemment tu as des Scamacca, tu as des Maxime Lopez qui sont capitaux pour le milieu de terrain et même dans la phase de possession. Évidemment, Berardi, cette saison, au-delà du fait qu'il est évidemment le capitaine de Sassuolo depuis quelques années maintenant, il est vraiment devenu un joueur accompli. Alors que mine de rien, Johan, il avait connu un euro, on va dire, où il commence titulaire et finalement il le termine sur le banc. Donc ça avait été un peu compliqué de ce niveau-là, même s'il a eu évidemment son rôle à jouer. Mais cette saison à Sassuolo, vraiment, il a passé ce fameux cap de, d'être décisif tout au long de l'année. Et aujourd'hui, et on en parlera dans quelques minutes, mais c'est aussi de savoir s'il peut passer un autre cap, c'est celui du grand club, du très grand club. Est-ce qu'il est prêt pour faire le grand saut? Dans la presse, quand même, il se dit que lui considère que son cycle est fini avec Sassuolo. Alors, on le dit souvent, hein, l'été, c'est souvent un peu le feuilleton de l'été. Berardi, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va pas partir? Et c'est vrai que là, quand même, on a l'impression qu'il est plus orienté vers un départ parce qu'il y a des gros clubs, pour le coup, qui sont intéressés, la Roma en primis. Mais c'est vrai que Berardi, cette saison, a été vraiment le... Voilà, il était ce terminal offensif qui venait récompenser toute la trame de jeu et tous les changements qui est parvenu à inculquer et imposer Dionisi cette saison.
Moi, j'ai bien aimé, en repensant à ça, j'ai bien aimé le milieu à 3. À partir du moment où il a installé ce milieu à 3, je trouve que ça a très bien fonctionné avec Maxime Lopez devant la défense, Traoré sur sa gauche et Fratesi à droite. Parce que ça a un peu renforcé le cœur du jeu. Parce que aussi... Bah, vouloir mettre un 10 quand tu n'en as pas et essayer d'adapter des joueurs à ce poste-là, c'est pas forcément une très bonne idée. À partir du... Parce que, évidemment, Juricic étant blessé, il n'y avait pas le 10 de référence dans l'équipe. Donc, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Il y a une forme de progression chez pas mal de joueurs. Et puis, mine de rien, Guillaume, cette équipe, elle est allée gagner à Milan contre l'Inter, à Milan contre l'AC Milan, qui est pour moi d'ailleurs l'un des meilleurs matchs cette saison de foot en Serie A, le Milan-Sassuolo, et à Turin contre la Juve. Bon, ça va, c'est pas banal comme saison. Hein,
Et on sait que ça avait été un peu le péché il y a des dernières années aussi, hein, où vraiment il y avait le plafond de verre face aux grosses équipes, où parfois ça pouvait être compliqué, et c'est vrai que cette saison, elle a vraiment été, on va dire, la terreur des rôles, parce que quand elle gagne, tu sais, à Milan contre l'Inter, c'est quand même l'un des moments décisifs de la saison. Et c'est sûr que... Alors après, bon, il y a ce dernier match contre l'AC Milan, pour le coup, bon, c'était vraiment la fin de saison. C'était plus, on va dire, une équipe qui n'avait plus grand-chose à jouer. Mais quand elle va à Milan, ça posait face à l'Inter, qui était sans Brozovic à l'époque. Donc, c'était pas l'Inter qu'on avait l'habitude de voir, parce qu'il manquait vraiment son cerveau. Elle y va vraiment en patronne, en imposant son jeu, avec ses idées, et surtout en étant plus concrète que cette dernière saison. Donc, voilà, vraiment, ça solo cette saison. Ça a vraiment été le... J'ai pas envie de dire une surprise, parce qu'on a l'habitude quand même de voir cette philosophie, de voir ce projet de jeu et de voir certains joueurs à un certain niveau. Mais en Italie, tu sais, on dit Bottega Calda, ça veut dire que voilà, c'est un endroit où les joueurs valent toujours cher. En tout cas, cette saison, tu as beaucoup de joueurs à Sassuolo qui valent cher. Et Carnevali, qui est le directeur sportif, le disait. Mine de rien, le joueur le plus courtisé, c'est pas Scamacca, c'est pas Berardi, c'est pas Flattesi, c'est Maxime Lopez. Donc en fait, chaque joueur à Sassuolo progresse et élargit sa palette et mine de rien, bah, se fait quand même une cote au-delà de l'Italie. Donc à Sassuolo aujourd'hui, c'est quand même l'un des meilleurs clubs en Serie A pour, on va dire, pour ton parcours et pour grandir même au niveau personnel et au niveau de ton jeu.
Tu me fais une belle passe décisive pour un instant promo, puisque dans la revue de l'After, la nouvelle revue de l'Afterfoot, j'ai fait une interview de Carnevali. Sur 5 pages, je crois, où on détaille toute la stratégie sportive de Sassuolo, la confiance aux jeunes, même vis-à-vis des entraîneurs, il y a des choses intéressantes. Donc voilà, n'hésitez pas
un petit spoil au niveau de ton interview. Est-ce que, quand tu as posé des questions, est-ce que lui t'a donné son ressenti par toi aujourd'hui, Sassuolo, on sait le jeu, on sait l'équipe, mais est-ce que le club n'a pas envie de passer ce step supplémentaire, ne pas seulement, on va dire, former ou produire du bon jeu, des bons joueurs, mais bah, tu vois, passer ce cap, se qualifier, bah, tu vois, pour une Coupe d'Europe, ou alors j'ai pas envie de te dire jouer le top 4, mais tu vois, jouer un peu plus dans les hauteurs, parce qu'on sent qu'il y a quand même un plafond de verre, que se heurte toujours ce projet, parce qu'aussi, on sait, voilà, il va y avoir aussi des départs cliniques, donc est-ce que ça se voit pas envie aussi de franchir ce cap-là, justement?
Ils sont conscients de la taille du marché Sassuolo et ils savent très bien qu'ils ne pourront pas rivaliser avec les plus grands. Ils sont en capacité de garder des joueurs, on l'a vu hein, avec Berardi par exemple. Ouais, ça fait 5 ans que Berardi est sur le départ, il est toujours là. L'année dernière, il y a eu des offres pour Raspador, il est resté. Donc ils sont en capacité de garder des joueurs. D'ailleurs, dans l'interview, il me dit clairement « tous ne partiront pas ». Il faut arrêter les fantasmes, « tous ne partiront pas ». Mais ils sont très conscients de leur place et évidemment que ils, je ne vais pas dire ils rêveraient parce qu'ils l'ont déjà fait une fois, mais ils aimeraient accrocher une nouvelle fois une Coupe d'Europe, mais ils se voient difficilement aller plus haut que la Conference League ou puisque maintenant la 7ème place selon les conditions peut être qualificative pour la Conference League, c'est difficile pour eux de viser plus haut, et en fait ce qu'ils font est déjà très bien.
Exactement.
Et il faut juste réussir ce projet-là, enfin continuer à faire ce projet-là, réussir à ne pas avoir de gros trous de génération, de recrutement, etc. Parce que c'est là où tu es en danger avec ce type de projet. Et on verra, mais bien sûr qu'ils aimeraient faire une Coupe d'Europe, mais ils sont aussi conscients que Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, mine de rien, si tu es dans une forme de logique, toutes ces équipes-là, elles sont devant eux.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Et c'est évident, mais surtout l'important, ça reste quand même le projet de jeu, les idées, hein, la cohérence à tous les niveaux, que ce soit le club, soit la direction, l'effectif, l'entraîneur. Et c'est pour ça que Dionysie, tout à l'heure, on parlait de suite logique, mais au niveau de la philosophie, on va dire, il y avait quand même voilà, quelque chose de sensé. Pour pallier le départ de Zerbi. Et mine de rien, tu sais, Johan, Sassuolo, ça commence à faire quelques années, qui sont là, qui jouent dans les hauteurs du classement et qui, voilà, ils produisent un jeu bien à eux. Et aujourd'hui, la marque, quand même, Sassuolo et le projet Sassuolo, ça pourrait permettre d'inspirer certains autres clubs. Hein, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Cagliari, de Genoa. Sassuolo, ils ont quand même pris un point de départ pour en arriver aujourd'hui et pour rester, j'ai envie de te dire, une place entre guillemets stable de la Serie A. Donc c'est aussi important de, on va dire, de servir de, bah, tu vois, de locomotive, hein, pour les wagons derrière qui parfois ont peut-être du mal à ne pas vivre l'instant présent et à voir un peu plus loin dans le projet.
Mais quand tu parles avec des propriétaires de clubs, c'est marrant, hein, mais les deux modèles qui reviennent le plus, et c'est d'ailleurs comme ça que commence l'interview de Carnevali, c'est Sassuolo et l'Atalanta, en fait. Tout le monde a bien compris que dans les petits marchés, je pense à petits marchés entre guillemets, hein, mais des clubs comme Sassuolo, comme Bologne, comme Spezia, comme le Genoa, tout le monde devrait s'inspirer de ce qu'a fait Sassuolo, en fait. Et d'ailleurs, quand on parlait de Empoli tout à l'heure, mon cher Guillaume, dans une des récentes sorties d'Andrea Zoli, après son Limogeage, parce qu'il faut le dire comme ça. Il a dit « Je suis déçu parce que je voulais continuer à mener ce projet et en faire et prendre… » Je ne sais plus quel terme il a donné, mais sur le modèle Sassuolo, en fait. Il a clairement dit « Je voulais que Empoli devienne le modèle Sassuolo. » Enfin, se serve du modèle Sassuolo, s'inspire du modèle Sassuolo. Donc aujourd'hui, on est face à un club très jeune en Serie A, mais dont la stratégie économique et sportive, parce que les deux sont liés, inspire beaucoup d'autres clubs. Donc on verra ce que ça pourra donner. Guillaume, tu voulais saluer le travail d'un certain Igor Tudor à l'Hellas
Vérone. Oui, et on pourrait même dire un travail surprenant, parce que moi, je ne m'attendais pas honnêtement à une telle saison de l'Hellas Vérone. Il faut rappeler que Tudor arrive alors en tout début de saison, mais après quelques matchs, mais il a quand même… Et comme arrivé en plein compte, donc il a dû prendre les rênes d'une équipe qui était déjà rodée et qui en soi n'était pas la sienne. Et c'est vrai que Johan, on a pris du plaisir comme rarement en regardant l'Hellas jouer, le jeu produit et le jeu demandé par Tudor. Toi comme moi, on a eu la chance cette saison de parler à Adrien Tamez, si on m'abuse, mon cher Johan.
C'est ça.
Et c'est vrai que qui de mieux que lui, qui a fait quand même une saison exceptionnelle pour le coup, et peut-être même la meilleure de sa carrière, selon ses dires, à l'Hellas, qui disait, pour résumer et pour vulgariser, je prends un pied monstre en jouant à l'Hellas Vérone. Donc on sait malheureusement que Tudor aujourd'hui est parti, donc c'est aussi un regret, là, comme, un peu comme Andrea Zoli à Empoli. Mais c'est vrai que Tudor, cette saison, apprenait un jeu très moderne, des idées portées vers l'avant. On a eu un Cholito Simeone qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière aussi, pour le coup, à l'Hellas Vérone. On a eu évidemment un Caprari qui a fait une énorme saison. Donc, on a vraiment un collectif qui est parvenu à sublimer des individualités. Et surtout, voilà, c'est aussi la révélation de la coach, Johan, parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même un entraîneur qu'on n'avait jamais vu, pour le coup, avoir une équipe à lui et prendre les rênes en tant qu'entraîneur principal. Parce qu'on rappelle qu'on était à la Juve, voilà, il était dans le staff. Et c'est vrai que le voir promu comme ça à l'Hellas, en parcours de saison, et faire le travail en aussi peu de temps que lui est parvenu à le faire, et en inculquant des idées bien précises de son jeu, tout en apportant, comme le disait Adrien Tamez, une aussi de Grinta, parce que Tudor, je pense qu'on se souvient tous le joueur qu'il était sur le terrain. Donc, il y a toujours cette mentalité quand même et ce caractère bien trempé qu'il a voulu donner à ses joueurs. Mais ça n'empêche pas qu'au-delà de ce caractère, il a voulu donner un jeu agréable, un jeu porté vers l'attaque. Et c'est vrai que, qu'on a eu quand même, mine de rien, de toute façon, on résume, l'Empoli jouait au football. Sassuolo, on le savait. La Fiorentina, ça reste quand même cette saison la première d'Italiano, donc ça reste quand même une petite surprise. Et la Vérone de Tudor, je pense qu'on peut la mettre quand même dans les équipes Johan, qui ont quand même pratiqué le meilleur jeu cette saison en Serie A.
Dans un style totalement différent des trois autres, mais effectivement,
évidemment,
on connaît le style Tudor, on le connaissait un peu moins que le style Juric, mais il y a eu une vraie continuité, une sorte de passage de témoin entre les deux, déjà évidemment par la ressemblance du schéma tactique, mais aussi sur l'approche basée sur la verticalité, l'exploitation des seconds ballons, l'agressivité dans les duels. Et puis quand on parlait des joueurs de Sassuolo qui ont progressé, on parlait des joueurs d'Empoli qui ont progressé. Bon, là, Simeone, Barak, Tamez, Ilic, Casale, même Montipo, qui avait quand même...
Ouais.
Mine de rien, on a très peu parlé cette saison, mais Montipo, qui devait prendre la suite de Silvestri, qui avait été énorme à Vérone, lui aussi fait une très très bonne saison, donc...
Même Faraoni, capitaine.
Ouais, exactement. Caprari aussi qui a retrouvé la nationale. Et donc, c'est vraiment un travail de qualité. Puisque je parlais de Juric, juste une petite mention quand même pour son Torino. Il a clairement redonné vie au Toro, ça c'est clair. Il a appliqué sa méthode qu'il avait développée à l'Hellas Vérone et dont je viens de citer les grands principes. Même chose, quand tu regardes les progrès des joueurs, les Bremer, les Singo, les Lukic. La bonne saison de Dzima ou de Brekalo, bon, il y a assez de
contexte. Le contexte fait toujours quand même que un joueur, s'il prend du plaisir et s'il a vraiment envie de mettre en œuvre ce que lui dit l'entraîneur, et ça change quand même une équipe. Et je pense quand même que ce sont les deux exemples les plus éclatants, parce que l'Hellas de Juric était quand même déjà une belle équipe. Et tu vois, si tu prends quand même probablement les deux changements les majeurs en Serie A cette saison, tu as quand même la Fiorentina, on a parlé italienne, et tu as quand même le Torino de Juric qui arrive plusieurs saisons compliquées. Et avec l'arrivée de Juric, qui on le savait était un excellent coach à l'Hellas, voilà, reprendre les rênes d'un Torino qui était un peu en perdition cette dernière saison, c'était pas simple. Et ça nous a quand même confirmé que quand tu as un projet, quand tu as des idées et que tu les appliques à un club, même en difficulté, ça fait progresser les joueurs, ça donne du plaisir à des supporters et tu as des résultats quand même qui arrivent parce que la Fiorentina est en Europe et le Torino a connu une meilleure saison que les derniers.
Et puis une dernière mention, Guillaume, pour la grosse, enfin, en tout cas de mon côté, tu me diras si tu en as une autre, la grosse fin de saison de l'Udinese et de Cioffi, qui entre le 20 février et la fin du championnat n'a perdu que 3 matchs. Alors c'était contre l'Inter, Naples et Spezia à l'avant-dernière journée. Ils ont accroché la Roma, le Milan, la Lazio et ils ont mis 2 buts par match en moyenne entre le 20 février et la fin du championnat. Gros travail à l'Udinese, des joueurs qui ont pris une nouvelle dimension, évidemment les Deulofeu, les Molina, les Udoji, ouais. Qui vont avoir beaucoup de mercato, tous ces joueurs-là.
Même Beto, hein. Beto qui a fait une belle saison.
Mais alors Beto, c'est plutôt première partie de saison. En fin de saison, il a été blessé, il a un peu moins joué, etc. Et il a été un peu moins performant, mais Beto, il a maintenu l'Udinese pendant toute la première partie de saison, largement. Mais tu vois, il y a des joueurs qui vont avoir du mercato. Et la question, moi, toujours avec l'Udinese, c'est... Alors la bonne nouvelle, je pense, pour l'Udinese, c'est que Watford descend en championship. Parce qu'on sait que les Pozzo, ils ont depuis des années clairement favorisé oui. Watford, parce que les rentrées publicitaires ne sont pas les mêmes. Enfin, les rentrées, pas publicitaires, pardon, les rentrées d'argent tout court, télévisuelles notamment, ne sont pas les mêmes. Là, le fait qu'ils soient en championship, je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Udinese, peut-être pour avoir un peu plus d'intérêt de la part des Pozzo. Mais s'ils perdent, et je vois difficilement l'Udinese réussir à garder Deulofeu, Molina et Udoji, déjà, rien que ces trois-là. Mais on peut aller plus loin avec Beto, comme tu l'as dit. Peut-être qu'un Pereira peut avoir du mercato aussi. Makengo a du mercato. Enfin, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont demandés. Mais j'aimerais bien que se recrée quelque chose à l'Udinese. Et tu sais, l'Udinese est de Di Natale et...
De Sanchez.
Voilà, Sanchez, etc. Du début des années 2010. L'Udinese est de Spalletti au début des années 2000. J'aimerais bien qu'on retrouve ça parce que, mine de rien, dans un petit marché, un petit territoire... À l'extrême est de l'Italie, l'Udinese est réussi quand même de très belles choses régulièrement et malheureusement parfois le manque d'intérêt de ses propriétaires l'ont fait plonger ces dernières années. Donc j'aimerais bien qu'on retrouve, tu sais, un espèce de cercle vertueux où il y a à nouveau un petit peu d'investissement, à nouveau on essaie de garder des joueurs sur plusieurs années et parce que ça peut redémarrer très vite à l'Udinese.
Et même l'intérêt, tu sais, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un club tu vois, qui a terminé 12e parce qu'ils font une excellente deuxième partie de saison, mais c'est un club aujourd'hui que tu ne regardes pas forcément ou qui est vraiment là. Et c'est vrai que quand tu penses à l'Udinese qu'on a connu il y a quelques années et celle d'aujourd'hui, c'est dommage et ce serait important qu'elle retrouve un peu ses lettres de noblesse. Donc là-dessus, je change totalement. Moi, j'ai deux autres points à souligner avant qu'on termine, Johan, c'est tout d'abord, l'aspect de Thiago Motta, parce que Thiago Motta, mine de rien, il a fait un bon boulot cette saison en Spezia. Il faut rappeler que, en décembre, il était quasiment viré, on peut le dire comme ça. Il va gagner à Naples, il va gagner à Milan. Donc c'est les deux victoires, on va dire, qui lui ont sauvé son banc. Mais il est parvenu à remplir l'objectif qui était celui de club en début de saison. Donc voilà, c'était quand même une mention. On verra où terminera Thiago Motta. Donc nous, on enregistre, on est début juin. D'ici à ce que vous écouterez, peut-être que ça sera décidé, mais on sait que ce ne sera déjà pas à Spezia parce que le départ est acté. Mais voilà, je tenais quand même à... Pour un entraîneur, quand même au niveau du... de la situation qui s'est créée autour de lui, parvenir à mobiliser ses troupes et à atteindre cet objectif qui était le maintien, voilà, je pense que c'était pas simple et... c'était quand même un coup de chapeau pour Motta, Johan. Je pense que tu es d'accord là-dessus.
Ouais. Évidemment, pas un jeu aussi qualitatif qu'Italiano.
Non.
Mais, mais dans un contexte pas toujours évident.
Mais il y a des idées quand même. Hein. On voit
bien
ce que
sûr,
veut,
ouais. Bien sûr.
On voit ce que veut faire Motta.
Et puis surtout, il a eu un contexte pas évident à gérer avec clairement un dirigeant qui voulait un peu sa peau.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Et la transition est toute faite pour aller à Salerne quand même. Alors même si la dernière défaite contre Lugnez était éclatante et rocambolesque, bah, quand même une mention spéciale pour David Nicolas qui a fait un gros boulot, qui confirme quand même qu'il est un très bon pompier de service, pour le coup, parce qu'il a encore parvenu à sauver la Salernitana comme il avait sauvé d'autres clubs ces dernières saisons. Donc un gros coup de chapeau à lui. Il a été confirmé dans ses fonctions, et ça, c'est une bonne chose, parce que l'appli en cours de route, on va dire que c'est un peu la solution de facilité, mais pour lui, mine de rien, c'est jamais simple. Et il est parvenu. Est-ce qu'on peut parler, Johan, de miracle sportif pour qualifier. Je sais qu'en Italie, c'est un truc que je lis beaucoup, miracolo sportivo, pour parler de. En fait, c'est d'où vient, parce qu'il faut recontextualiser, la Salernitana était quasiment toujours relégable cette saison. Ils ont été vendus à une ou deux minutes près. Voilà, ils ont retrouvé Iervolino, le repreneur, le 31 décembre. Donc, ça s'est joué vraiment sur le pouce. Donc voilà, il y a vraiment eu un contexte global, en plus des résultats autour de la Salernitana, qui a fait que tout le monde pensait que la descente était actée, même en janvier. Personne ne voyait Salernitana se sauver. Et c'est vrai qu'on peut parler de miracle si on recontextualise justement tous ces faits-là.
Après, non, mais alors déjà, tu as raison sur le contexte, etc. Mais même quand tu regardes au début de saison, la qualité de l'effectif. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était l'effectif le moins armé pour rester en Serie A, avec Venise. Mais pour moi, les deux, il y avait un vrai gap entre ces deux clubs-là et les autres, en fait.
Il y a eu un gros mercato en janvier, d'ailleurs. Ouais. C'est par Walter Sabatini.
Et ça a aidé, clairement.
Et voilà, et ça a forcément aidé dans le rush final. Mais en tout cas, voilà, il y a eu forcément, lors du dernier match, une part de chance, parce que c'est sûr que perdre 4-0 face au Niez, et tu peux penser que Cal ira gagner à Venise, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, c'est quand même la récompense d'un travail assez colossal fait, on va dire, par le duo Sabatini et Nicole, hein, qui aujourd'hui, du coup, mon cher, est dissocié, parce que si on fait un peu un résumé de tout ça, on parlait de Empoli, on parlait de l'Elas, on parlait de Spezia, de Salernitana, c'est quand même des équipes qui vont tout changer de coach. À part Salerne, il y a quand même Sabatini qui est parti, parce que voilà, on a vu les dissensions avec le président Iervolino. Si tu prends les Las Vérone, Tudor est parti, l'Udinese, Tchoff il va partir. Enfin, il y a quand même beaucoup d'inconnus, mine de rien, Johan. Si on se projette quelques secondes sur la saison prochaine, tout ce qu'on a dénoncé sur les belles choses qu'on a vues, va falloir que les remettre en cause en vue de la saison prochaine, parce qu'il y a quand même pas mal de révolutions sur les bancs, à Salerne au niveau de la direction. Donc, c'est assez étrange pour certains, moins pour d'autres, mais c'est vrai que si tu prends tout ce qu'on a dénoncé, c'est assez marrant de voir quand même l'avenir qui se prépare pour chaque club, parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été entrepris alors qu'on n'est même pas en juillet.
Ouais, je suis d'accord. Il y a encore une fois une instabilité chronique
en
Italie.
C'est incroyable.
C'est malheureusement, les années passent et se ressemblent à ce niveau-là. Voilà, mon cher Guillaume, qui boucle notre bilan complet, je l'espère, de la saison 2021-2022. Beaucoup d'épisodes à écouter, vous pouvez vous les mettre dans les oreilles pour les vacances. À la plage, exactement. Si vous n'avez malheureusement pas la chance d'avoir des vacances ou de partir, vous aurez un peu de compagnie sur le football italien avec notre bilan en 7 épisodes. Voilà, je viens de compter rapidement. Merci Guillaume, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Calcio Pepe, n'est-ce pas ?
Merci à toi, Johan. Écoute, on se retrouve la saison prochaine, voire même avant, en fonction du mercato. On sait que ça va être très animé. Je viens de vous annoncer ce qui va changer. Et c'est pas fini, parce qu'au niveau des joueurs et des entraîneurs, il y a encore plein d'inconnus, parce que ça vient seulement de commencer. Mais voilà, il y aura, une fois qu'on aura, on va dire, le tableau complet de la Serie A en vue de la saison prochaine, du moins au niveau des bancs, on pourra commencer, on va dire, à faire un petit point route pour faire une mise à jour de tout ça. Mais voilà, le bilan de la saison 2021-2022 est bouclé. On espère qu'il vous a plu. On sait que les écoutes ont été nombreuses. On a des très bons retours, Johan, sur Twitter, beaucoup de commentaires. N'hésitez pas à les 5 étoiles déjà.
Bien sûr.
À partager le podcast, le bouche à oreille. Écoutez-nous sur la route. On peut vous tenir compagnie sur la route. Voilà, la route des vacances.
C'est quand même mieux que Autoroute FM. Hein.
Exactement. Alors, on n'est pas bison futé, on n'a pas l'état du trafic à l'heure actuelle. Mais en tout cas, voilà, on est là pour vous accompagner. Et même si vous avez des idées de podcast ou autre, voilà, on est toujours à l'écoute. Mais voilà, n'hésitez pas à partager, à le dire à vos amis, à nous noter. Et c'est important parce que ça nous motive déjà. Parce que Yoann, on a quand même nous, nos métiers chacun de notre côté. Donc, on essaye de se réunir pour produire un contenu de, nous l'espérons, de grande qualité, c'est en tout cas notre objectif. Mais voilà, merci pour l'écoute, merci pour l'attention, merci pour les petits mots, et on se retrouve évidemment la saison prochaine.
Voilà, de belles paroles pour conclure ce bilan. Allez, à très vite.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.